France.
Le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous. Ils cultivent une belle amitié, une belle complicité depuis des années, complicité qu'ils revendiquent en ce moment au disque dans un bel album intitulé Complice, justement. Jean-Guyenne Queyras et Alexandre Tarot seront avec nous ce soir. Nous raconterons ce qui les rapproche, ce qui a nourri cette belle relation depuis déjà de longues années. Le temps de jeter un rapide coup d'œil sur d'autres événements de cette actualité musicale. L'Orchestre National d'Île-de-France vient d'entamer une nouvelle tournée sous la direction de James Fedeck et en compagnie du violoncelliste Victor-Julien Laferrière. Tournée qui débute ce soir au Chénet, avant de passer par Villejuif, Paris, Rungis ou encore Bagneux. L'étape parisienne, ce sera mardi soir à la Philharmonie. Alors au programme, Prokofiev et son amour des Trois Oranges, Dvorak et sa 8e symphonie, et puis Elgar et son concerto pour violoncelle, auquel Victor-Julien Laferrière devrait donner toute sa force, toute son intensité. Une nouvelle production à l'affiche de l'Opéra de Bordeaux dès demain soir. Nouvelle production de Roméo et Juliette de Gounod, mise en espace. On est donc entre la version de concert et la version scénique. C'est Justin Way qui a donc imaginé cette mise en espace qui accompagnera les émotions et la narration à travers quelques éléments scéniques plutôt épurés et à travers une véritable direction d'acteurs. Paul Daniel dirigera l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine ainsi que son cœur. Et pour incarner le célèbre couple d'amoureux, la soprano américaine Nadine Sierra et le ténor néo-zélandais Pene Pati, deux brillants chanteurs qui incarneront leur premier Roméo et Juliette en Europe, après avoir été déjà réunis dans ces rôles l'automne dernier à San Francisco, et deux chanteurs déjà habitués de la scène bordelaise où ils ont laissé quelques beaux souvenirs. On se souvient notamment de Nadine Sierra la saison dernière dans le rôle de Manon. Nadine Sierra et Pene Pati en Roméo et Juliette, c'est à partir de demain et jusqu'au 15 mars au Grand Théâtre de Bordeaux. Le clarinettiste Pierre Génisson fera swinguer la scène musicale demain soir avec le pianiste Bruno Fontaine et les musiciens du BBC Concert Orchestra sous la direction de Kate Lockhart. Il reprendra le programme de son tout récent album dont il était venu d'ailleurs nous parler, un album en hommage à Benny Goodman. Des pages de Bernstein, Copland ou encore Stravinsky dialogueront ainsi avec quelques standards du célèbre jazzman. Un concert qui bouscule les barrières et nous prouve qu'entre le jazz et le classique, il y a des ponts que certains musiciens, à l'instar de Pierre Génisson, franchissent avec aisance et naturel. Thank you. Studling Town de Fred Fischer, l'un des standards de Benny Goodman, repris ici par Pierre Génisson dans son tout récent album en hommage à Benny Goodman. Pierre Génisson en concert donc demain soir à 20h30 à la scène musicale avec les mêmes partenaires de cet album, à savoir le BBC Concert Orchestra et le pianiste Bruno Fontaine.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Ils sont réunis une nouvelle fois au disque, mais aussi sur Radio Classique pour ce journal du classique. Jean-Guyenne Queyras et Alexandre Tarot sont ainsi passés nous voir tous les deux pour nous présenter ce nouvel album sorti chez Harmonia Mundi. Un album de bis réunissant un florilège de ces brèves pages qu'ils aiment offrir au public à la fin des concerts. Et des concerts, ils en ont partagé, des aventures musicales, ils en ont vécu ensemble depuis des années. Ils sont amis, ils sont frères, ils sont complices et nous racontent justement ce soir ce qui leur a permis de construire, de nourrir cette si belle complicité.
Partager la scène déjà, partager les tournées, c'est pas facile de voyager, de prendre des trains et des avions tous les jours et les partager, c'est vivre ensemble des moments assez intimes finalement, des moments de fatigue aussi, des moments de trac, entrer sur la scène, sortir de scène. Dans une tournée, vous avez des hauts et des bas, vous faites un concert, vous êtes tout content en sortant du concert, le lendemain, vous êtes très mécontent. Et les vivre ensemble, c'est quelque chose, ça laisse des traces de beaux souvenirs.
Mais pour créer ces liens, il faut aussi s'apprécier, j'imagine, en tout cas c'est ce qui est visiblement le cas. Il faut aussi apprécier ce qui est différent chez l'autre et s'en nourrir.
Moi je crois que vraiment le qui se ressemble, ça semble, mais je crois que l'opposé est vrai aussi. C'est-à-dire je crois qu'on a besoin d'être dans le contraste, c'est comme dans la musique, c'est comme dans tout. Et effectivement, avec Alexandre, il y a eu tout de suite, de toute façon, on s'est entendu dès la première rencontre qui était à la sortie d'une pièce de théâtre à Paris. On avait vu Michel Serrault dans une mise en scène de Knock et on s'est rencontrés là pour la première fois et on s'est dit tiens allez si on se retrouve un jour pour faire un peu de musique et puis ça a commencé comme ça et de concert en concert on a eu envie de continuer donc il y a eu cette complicité mais c'est vrai que cette complicité elle s'est construite aussi sur une complémentarité. Moi par exemple j'ai une admiration sans fin pour Alexandre et il nous fait rêver comme musicien mais c'est à la fois quelqu'un de très structuré. Je sais pas Alexandre tu vas peut-être me dire j'adore mais je sens chez toi une au sens le plus positif qui soit une discipline de vie des choix etc. Et moi parfois j'ai un peu tendance à me plonger comme ça à corps perdu dans la vie et puis parfois il faut que je retombe sur mes pattes enfin voilà.
C'est vrai, quand on rentre sur scène puisque je parlais de ce moment qui pour moi est essentiel dans ma vie et me porte mais chaque entrée en scène, souvent, Jean-Guyenne, on a répété ensemble le matin, un peu l'après-midi, tu as peut-être fait une sieste, mais tu as aussi donné des masterclass, tu as appelé plein de monde, tu es vraiment extrêmement dynamique dans ta journée, alors que moi, j'ai dû, parce que je ne peux pas faire autrement, j'ai dû faire une heure de méditation le matin, je suis allé à la piscine, j'ai dormi ou mal dormi, et puis ensuite je suis rentré progressivement dans le concert, mais j'ai besoin d'un temps de silence, de m'enfermer, et donc on va vers le concert d'une manière très différentes chacun.
Et je pense que c'est un peu une richesse en fait d'arriver comme ça et puis de dialoguer sur ces différentes énergies.
Avec des modes de fonctionnement différents. Je me rappelle du duo de piano Geneviève Joie, Jacqueline Robin. Geneviève Joie qui était la femme de Dutilleux et Jacqueline Robin, toutes les deux mes professeurs d'ailleurs au Conservatoire de Paris. Et c'était un duo extraordinaire. Elles étaient totalement différentes. C'était pas Laurel et Hardy, mais presque en fait. Une femme bien en chair, bonne vivante, qui prenait tout l'espace sur scène. Et l'autre qui était toute frêle, plutôt timide. Et elles me disaient toutes les deux que c'était l'idéal pour faire un duo de piano. Parce qu'il faut des sons différents, des manières de s'exprimer différentes pour être complémentaires. Surtout avec deux pianos qui ont presque le même son. Là, on fait un duo de violoncelle piano. Mais c'est vrai que un duo marche, fonctionne si on a des vies différentes, un rythme différent, un caractère différent.
Thank you.
Ce sont des petites pièces que l'on joue habituellement en bis, que vous avez enregistrées pour cet album complice, Jean-Guyenne Queyras et Alexandre Tarot, des délicieuses pages de Chrysler, des pages de Haydn, de Brahms, de Popper, de Tchaïkovski et bien d'autres. Les bis, ce sont des moments particuliers à la fin d'un concert, des moments intimes, on dit au revoir au public, on se retrouve une dernière fois sur scène, entre complices justement. Ce sont des moments particulièrement fort, intense et intime en même temps. Comment les décririez-vous ?
Je crois que c'est comme ça qu'on est venu aussi à ce mot, à ce titre de complice, à cause de tout ce qu'il peut impliquer. Donc il y a effectivement notre complicité à nous, notre partage dans les tournées, sur la scène, etc. Mais il y a aussi, c'est vrai, le moment du bis particulièrement. C'est plus une autour d'une grande œuvre de Brahms qu'on s'est retrouvé, c'est pour ça que les gens sont venus, c'est pour ça que nous on a travaillé pendant des heures et des années pour pouvoir vivre ces chefs-d'œuvre et toute leur profondeur, etc. Et puis le moment du bis, c'est le moment où on dit bon, voilà, vous êtes là, nous, notre cher public, et nous on est là avec notre humeur du jour, quel lieu, quelle acoustique, etc. Qu'est-ce qu'on a, on vous propose une petite pièce qui correspond, voilà, à cette humeur, à cette énergie dont on parlait tout à l'heure. Et là on va en peu de temps, en quelques minutes, aller visiter la mélancolie, l'exubérance, la joie, et même parfois on a fait des types de bis extrêmement différents au concert, justement extrêmement contrastés.
Et comment choisit-on d'ailleurs le bis ? Comment est-ce que cela vient ? Est-ce que c'est spontané ou est-ce qu'on l'anticipe ?
À moitié spontané, et c'est aussi de l'anticipation. Je crois que c'est toute une science, les bis.
Ouais.
J'adore ce moment-là, à la fin du concert, parce qu'il y a aussi du lâcher-prise, du clin d'œil avec le public, et on ne fait plus très attention, on se laisse aller au fond. Il faut qu'il y ait de la surprise. Donc, peut-être un premier bis, si on a joué une sonate très virtuose, on va peut-être premier bis, mollo, hein, une petite, comme ce merveilleux nocturne de Chopin, transcrit pour le violoncelle qu'on a enregistré. Je trouve ça merveilleux de commencer par exemple par ça. Puis ensuite, vous voulez un deuxième bis ? Vous pensez qu'on va aller dans cette direction ? Ben non, on vous propose autre chose. Il y a un petit jeu comme ça de ping-pong.
Le chat et la souris.
Avec
le public.
Et puis on les choisit aussi parfois tous les deux. Là, on rentre dans les coulisses. On a les partitions évidemment, mais on les a travaillées. Mais on en a une petite tripotée, on a une petite famille.
Un petit florilège là derrière la scène.
Allez, on va jouer ça. Ah oui, non. Et puis parfois on n'est pas d'accord. Et on revient sur scène. Parfois le bis se choisit alors qu'on rentre sur scène, qu'on est déjà devant le public. C'est assez amusant parce qu'il y a du danger aussi, du sans-filet.
Et parfois il y a même du danger dans l'annonce. Parce que j'adore demander à Alexandre s'il veut bien annoncer les bis qui ont des noms germaniques, parce que il se trouve que je suis expatrié depuis pas mal d'années, je suis en Allemagne, voilà, et j'adore entendre Alexandre dire des mots comme Liebesfreud ou Liebesleid, parce qu'il y a
avec un accent absolument catastrophique. Et je suis la risée de tout le monde à chacun de nos concerts.
Donc vous faites partie des musiciens qui annonçaient leurs bis ?
Oui, nous en général l'annonce, c'est vrai que les gens ils aiment bien quand même. Il va y avoir quelques personnes, on espère même beaucoup de personnes, qui ont eu un plaisir particulier et fort à entendre ce bis et qui seront un peu tristes de ne pas pouvoir le trouver. Donc, et je dirais que c'est même ça en fait qui nous a encouragés. Enfin, toi, tu avais déjà fait un album comme ça, Alexandre, absolument magnifique. Je me souviens, Carnet intime, avec des pièces de...
Mais Carnet intime, c'est autographe.
C'est autorat.
Tu ne connais pas bien tout ça.
Excuse-moi. Comment j'ai pu, même alors. Oui.
Mais il y a un côté carnet intime dans ce genre d'album.
Ah, merci, c'est vraiment.
Mais en tout cas, ce qui nous encourage à faire ce genre d'album, c'est que très souvent, en raison de ce dont on parlait tout à l'heure, de cette complicité, de ce moment très particulier du bis, après les concerts, le public vient nous voir. Le programme, on espère que ça leur a plu aussi, mais souvent, ils viennent nous poser une question sur le bis. Ils viennent dire, ah, tel bis, telle petite pièce. C'est un peu ça qu'ils vont retenir, parce que eux aussi, ils sont dans un état de, je sais pas, de liberté qui va faire que l'écoute, ils seront peut-être encore plus réceptifs.
Ce sont donc des bis que vous avez enregistrés pour cet album Complice, Jean-Guyenne Queyras et Alexandre Tarot. Tout un florilège de pièces connues, de pièces plus rares, de transcriptions, comme cette transcription pour violoncelle et piano d'un nocturne de Chopin. On s'aperçoit que lorsque vous jouez un bis, vous allez quelque part puiser dans des répertoires qui n'étaient pas forcément le vôtre. En tout cas, les violoncellistes jouent rarement des nocturnes de Chopin. Est-ce que le bis permet aussi une liberté, une certaine audace?
Alors, quand on a envisagé de faire cet album, on avait même En tout cas, j'avais même proposé au départ de l'appeler Hommage à Piatigorsky. Pourquoi ? Parce qu'il y a notamment la première pièce qui est une de ses transcriptions dans le style, j'ai envie de dire, début du siècle dernier, où il était totalement évident que les grands interprètes, Piatigorsky, Heifetz, Kreisler évidemment avec ses propres compositions, mais quand ils étaient comme ça en concert, Casals, quand ils transcrivaient tout ce qu'ils trouvaient dans le répertoire qui leur plaisait, un air d'opéra, un lead, une chanson populaire, je ne sais pas, hop, ils faisaient un arrangement pour leur instrument. Ça faisait partie vraiment du quotidien du musicien classique. Et je pense qu'on s'est un petit peu éloigné de ça dans la fin du siècle dernier, par pudeur, par respect, n'est-ce pas, bon, on transcrit pas quand même justement Chopin ou n'importe quoi, c'est sacré, c'est le compositeur, n'est-ce pas, le droit du compositeur. Et puis finalement, je crois que ça revient un petit peu, il y a une espèce de forme de jouissance de la liberté, et je crois qu'une transcription a quelque chose d'autre. Voilà, c'est pas effectivement la perfection telle que l'a pensé le compositeur pour un instrument particulier, etc. Mais ça amène une autre dynamique, chose comme ça. Et ça, je veux dire, tout ce travail de transcription qu'on a fait, nous aussi, sur, par exemple, sur les danses hongroises de Brahms, où on a dû retravailler complètement. Il y a une version pour violon et piano qui a été faite par Joachim à l'époque de Brahms. Et on est parti de ça et on a fait tout un travail pour que ça fonctionne au violoncelle et au piano. Et ça donne, en fait, quelque part de nouvelles œuvres. C'est autre chose.
Et la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, elle a sa place aussi dans les bis. Il vous arrive, Alexandre Tarot, de jouer des pièces récentes, des pièces contemporaines ?
En bis, rarement.
Rarement ?
En général, à la fin de mes récitals, je joue plutôt mes bis, mon petit carnet de bis habituel avec les Scarlatti, le prélude de Rachmaninoff, les préludes que le public attend. J'aime bien aussi cette attente, un peu comme un vieux chanteur de variété qui va ressortir ses tubes à la fin que tout le monde attend avec impatience. Il y a de ça et j'adore ça. Et donc là-dedans, j'ai pas vraiment la place pour une pièce contemporaine, mais je pourrais très bien le faire justement comme une surprise, comme quelque chose de nouveau. Allez, vous me faites confiance, après 2 heures de musique, écoutez ça, c'est intéressant. Mais vous me donnez une idée, là.
En tout cas, Jean-Guyane Queyras, vous jouez de la musique de Dutilleux. En tout cas, il y a du Dutilleux dans cet album, et il vous arrive de jouer Dutilleux en bis. Vous dire que les violoncellistes, vous avez moins, lorsque vous êtes seul, en tout cas, vous avez un catalogue de bis moins développé que les pianistes. Alors, moins d'œuvres pour violoncelle seul, je veux dire.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est une des raisons. C'est-à-dire que le violoncelle seul, c'est quoi ?
C'est Bach.
Un peu de répertoire. C'est Bach, le monument, n'est-ce pas ? Et qu'effectivement, souvent, on va vouloir, comme Alexandre disait, redonner à entendre, c'est une sarabande que tout le monde connaît déjà. Et après, toute la période romantique, on peut oublier, violoncelle seule, ça n'existe pas. Et ensuite, on arrive au XXe siècle. Donc, et là, il y a une réinvention du violoncelle comme instrument soliste. Donc, quand je joue en concerto, c'est vrai que très souvent, j'aime partir avec notamment cette strophe de Dutilleux, qui est un petit moment de magie, comme ça, en apesanteur. C'est vraiment une filigrane, comme ça, qui crée un espace, je sais pas. Et c'est vraiment, je crois vraiment que c'est le bis que j'ai le plus joué de ma vie. Mais je me souviens qu'avec Alexandre, on avait joué ensemble, par exemple. Alors, c'est pas de la musique contemporaine, mais c'est un langage quand même. On avait joué les 3 petites pièces de Webern, je me souviens.
Ah, on les joue en bis régulièrement.
On les joue en bis de temps en temps. Et ça, je trouve que ça fonctionne très très bien.
Absolument.
Voilà, donc ces bis, vous les avez réunis au sein de ce magnifique album Complice, paru tout récemment chez Harmonia Mundi. Vous n'avez pas de concert en commun, en tout cas prochainement ensemble, mais de belles actualités respectives. On commence avec vous, Alexandre. Vous serez dans quelques jours les 11 et 12 mars à la Philharmonie de Paris pour jouer le concerto pour la main gauche de Ravel avec l'Orchestre de Paris et Alain Altinoglu. On pourra vous entendre également le 19 mars en récital à l'Opéra de Rennes, où vous donnerez ce merveilleux programme Versailles, qui a fait l'objet d'un précédent album. Jean-Guyane Queyras, vous serez le 29 mars à l'Opéra de Limoges, dans un programme qui associe musique et danse. Un de vos points communs, d'ailleurs, la danse. Alexandre Tarot, vous avez fait des spectacles piano et danse, et vous dansez.
Un petit peu, oui, mais surtout la danse est importante pour moi, parce que j'ai passé mon enfance baignée par la danse classique.
Voilà, donc ce sera avec Anna Teresa de Kersmacher. Vous reprendrez ce beau programme autour de Bach, Jean-Guyenne Queyras. Le 2 avril au Théâtre des Champs-Élysées avec l'Orchestre de Chambre de Paris pour jouer Saint-Saëns et Boulez. Le 28 avril à la Philharmonie de Paris pour un programme autour de la Nuit transfigurée de Schoenberg avec de merveilleux partenaires parmi lesquels Isabelle Faust, Antoine Tamestit ou encore Christian Poltera. Et on termine avec les 13 et 14 mai à Lille pour le premier concerto de Haydn avec l'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch. Ce sont pour vos prochains concerts français, sachant que tous les deux, vous êtes sur les routes à l'international. Quel sera le prochain pays pour vous, Alexandre ?
C'est pas l'Allemagne ensemble ?
On va aller en Allemagne.
Ça en dit long sur notre, sur notre connaissance de nos prochains concerts. Oui, je me réjouis.
Ça, c'est notre problème. Ben, moi aussi, j'ai bien hâte. Et surtout qu'on fait d'ailleurs ce programme avec beaucoup de petites pièces de bis, on fait, qui est un peu une nouveauté pour nous, en tout cas.
Une deuxième partie entièrement petite pièce.
Voilà. Et une première partie avec...
plus massive.
Voilà.
Oui. Debussy, Brahms.
Puis ensuite les gourmandises, voilà. Les mignardises pour terminer. Ça. Merci infiniment Alexandre Tarot et Jean-Guyenne Queyras d'être passés nous voir.
Merci.
Danse hongroise de Brahms, un nouvel extrait de l'album Complice de Jean-Guyenne Queyras et Alexandre Tarot, sorti chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Lucille Metz pour sa réalisation. Très belle soirée et très beau week-end à l'écoute de Radio Classique. C'est avec Francis Drezel que vous pourrez bien entendu prolonger cette soirée en musique.